journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La guerre après Loukas, Vladimir Poutine a lancé dans la nuit son offensive sur l'Ukraine et pas seulement dans l'est du pays. Des frappes ont eu lieu dans la capitale Kiev où nous serons dans un instant. Des explosions dans d'autres grandes villes aussi. Nous serons à Moscou où le maître du Kremlin a donc mis ses menaces à exécution. À New York où s'est tenue une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU dans la nuit. À Paris où Emmanuel Macron réagit à l'instant, la Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires, dit le président. Et puis nous verrons ce que l'Occident compte faire ou ne pas faire pour aider l'Ukraine. Ce sera aussi, bien sûr, l'objet du grand entretien tout à l'heure, Nicolas.
Oui, avec nos deux invités, la spécialiste des questions internationales, éditorialiste au quotidien Le Monde, Sylvie Kaufmann, le professeur émérite à Sciences Po Paris, spécialiste, lui, de géopolitique, Bertrand Badie, et toutes vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Tout était prêt, sa déclaration a été diffusée à 4h ce matin à la télévision russe. Vladimir Poutine annonce la guerre.
J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Et pour ce faire, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine. Nos plans n'incluent pas l'occupation des territoires ukrainiens. Nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force.
Pas d'occupation de l'Ukraine, dit le président russe avec ses mots de génocide et de dénazification. Et dans la foulée, des explosions un peu partout dans le pays, à commencer par la capitale Kiev. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour.
Vous êtes sur place à Kiev pour France Inter.
Oui, en fait, c'est apparemment une attaque tous azimuts, hein, notamment sur la ligne de front du Donbass, Kramatorsk ou Mariupol, sur la mer d'Azov. Les séparatistes du Donbass viennent d'ailleurs tout juste d'annoncer qu'ils lançaient une offensive, hein, sur les deux oblasts. Sur la frontière est du pays, près de Kharkiv, c'est tout à côté de la frontière russe, c'est la deuxième ville du pays. Après quelques bombardements, des troupes russes auraient attaqué les gardes frontières et seraient même entrées dans le pays. Dans le centre de l'Ukraine, à Dnipro ou à Vinnytsia, ce sont des bases aériennes ukrainiennes qui ont été visées. Il y a eu quelques dizaines de minutes, l'agence russe TASS diffusait un communiqué annonçant que toute la défense antiaérienne ukrainienne avait été neutralisée. L'armée ukrainienne, pour sa part, annonçait avoir abattu 5 appareils russes et un hélicoptère d'attaque dans la région de Louhansk. Au sud, à Odessa, le grand port sur la mer Noire, plusieurs explosions perçues en ville ce matin. Le ministère ukrainien de l'Intérieur évoquait même le débarquement de troupes russes à Kiev, la capitale. Depuis le centre-ville, on a entendu tout à l'heure le bruit sourd de plusieurs explosions. Il semble que ce soit premièrement l'aéroport de Boryspil, à 25 km de la capitale, qui a été visé. Le ministre de l'Intérieur ukrainien mentionnait également tout à l'heure une attaque au missile sur la base aérienne de Valitskiv. C'est à 30 km de l'autre côté du Dniepr, au sud-ouest de la capitale. Puis, alors là, ce sont les toutes dernières annonces. Des attaques ont été signalées sur la frontière nord de l'Ukraine, la frontière avec la Biélorussie. Une colonne de chars aurait même été vue pénétrer sur le territoire ukrainien. La frontière biélorusse se trouve à 250 km au nord de la capitale ukrainienne. Et même à l'ouest du pays, dans la ville d'Ivano-Frankivsk, on est à 250-300 km de la frontière polonaise, ont signalé il y a une heure plusieurs explosions en ville, et l'arrivée d'un missile sur l'aéroport d'Ivano-Frankivsk a même été filmée il y a quelques dizaines de minutes. En fait, en clair, la totalité du territoire ukrainien est désormais sous le feu. Il ne s'agit certainement pas d'une opération limitée au Donbass.
Eric Biegala à Kiev pour France Inter. Kiev où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris la parole dans la nuit. Pas de panique, dit-il à son peuple, nous allons vaincre. Depuis hier, 40 000 réservistes de l'armée ukrainienne ont été rappelés et de jeunes gens sont prêts à prendre les armes. Vladislav Volokhov a 18 ans, il veut s'engager, dit-il, pour défendre la liberté. Joint ce matin par Ajra Mohammad, il raconte ses heures, ses premières heures de guerre qu'il vient de vivre à Kiev.
À environ 5h du matin, on a commencé à entendre des bruits très lourds. On a pensé au départ que c'était juste des avions, mais c'était en fait des bombardements. Et ils ont commencé dans la ville de Kiev. Des amis me racontent que dans la ville de Kharkiv, et dans les villes de Odessa et Mariupol aussi, il y a des bombardements qui sont en train de se passer. Dans les rues, tout le monde est en train d'essayer de courir, ou à pied, ou par voiture. La ville ne bouge pas parce que tout le monde a pris leur voiture et sont sur les routes, donc c'est pas vraiment possible de rouler. Il y a des énormes lignes pour acheter du pétrole, mais je pense pas que le pétrole est toujours possible de l'acheter. Donc c'est ça la situation maintenant. En général.
Qu'est-ce que vous ressentez ce matin, là, tout de suite ?
Il n'y a aucune certitude. dans qu'est-ce qui va se passer pendant les prochains 10 minutes, 5 minutes. Il n'y a aucune confiance dans rien, en fait. Ça fait peur.
Voilà pour ce témoignage recueilli à Kiev, frappé comme la plupart des grandes villes et des ports. Kharkiv, à l'est, est la deuxième ville d'Ukraine. Omar Waman, vous êtes dans ce secteur en première ligne entre Kharkiv et Kiev.
Oui, nous avançons, Florence, tout doucement, vraiment très lentement avec Gilles Gallinaro sur cette route qui traverse l'Ukraine de l'est vers l'ouest. Et nous avons d'abord observé, montant dans le ciel, ce ciel azur, bleu azur ukrainien, des colonnes de fumée noire, résultat des bombardements sur la ville de Kharkiv que nous avons longé. On a vu des files ininterrompues de voitures, de véhicules qui font la queue devant les stations-service. Les stations essence, il est évidemment très difficile de circuler. Les embouteillages sont longs, nombreux. On a aussi croisé des civils, très nombreux également, fuyant à pied avec quelques affaires prises à la hâte. On a également aperçu les ambulances militaires qui se dirigeaient vers la région du Donbass, à l'est du pays que nous venons de quitter et où ces combats font rage. Ce sont, Florence, des habitants sous choc que nous avons découverts, les visages inquiets, fermé, car cette attaque massive, cette agression a pris tout le monde de court. Personne n'imaginait que Vladimir Poutine ne mette ses menaces à exécution. Désormais, le sentiment qui prévaut ici, c'est que personne ne peut arrêter le maître du Kremlin.
Omar Waman sur la route entre Kharkiv et Kiev avec Gilles Gallinaro dans cet est ukrainien tenu en partie par des séparatistes pro-russes depuis 8 ans. Officiellement, c'est pour les défendre que Vladimir Poutine lance la guerre. Mais l'offensive est donc beaucoup, beaucoup plus large. Avec nous, Sylvain Tronchet, correspondant de France Inter à Moscou.
Bonjour.
Sylvain, Vladimir Poutine a donc mis son plan à exécution comme le redoutaient les Ukrainiens et les Occidentaux depuis des semaines.
Oui, et cette décision semblait d'autant plus préparée que, d'après plusieurs médias russes ce matin, le discours diffusé tout à l'heure du chef du Kremlin semble en réalité avoir été enregistré lundi après l'autre discours annonçant la reconnaissance des républiques séparatistes du Donbass. C'est ce que montrent en tout cas les métadonnées de la vidéo diffusée sur le site internet du Kremlin. Vladimir Poutine a d'ailleurs repris dans ce discours ce matin tout ce qu'il avait déjà développé lundi. Le génocide en cours, selon lui, dans le Donbass, la nécessité de dénazifier l'Ukraine. Et il s'est adressé directement aux soldats de l'armée ukrainienne.
Je dois également lancer un appel aux membres des forces armées ukrainiennes. Chers camarades, vos pères, grands-pères et arrière-grands-pères n'ont pas combattu les nazis pour défendre notre patrie commune, afin que les néo-nazis d'aujourd'hui puissent prendre le pouvoir en Ukraine. Vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien et non à la junte antipopulaire qui vole et malmène l'Ukraine. Ne suivez pas ces ordres criminels. Je vous demande de déposer vos armes immédiatement et de rentrer chez vous.
D'après les informations que nous avons ici à Moscou, l'opération militaire actuellement en cours vise à détruire les infrastructures essentielles de l'armée ukrainienne afin de la rendre inopérante. Le ministère russe de la Défense assure avoir déjà cloué au sol l'aviation ukrainienne et détruit toutes ses défenses antiaériennes. Vladimir Poutine, dans son discours, s'est également adressé indirectement aux Occidentaux. Quiconque tentera de nous entraver ou pire, de menacer notre pays, a-t-il dit, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate. Et cela entraînera des conséquences que vous n'avez jamais connues auparavant dans votre histoire.
Sylvain Tronchet, correspondant de France Inter à Moscou. Alors la cible, elle est très claire, c'est la junte au pouvoir à Kiev, dit l'ambassadeur russe à l'ONU. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité était en cours cette nuit au moment où Poutine lançait les hostilités. Le secrétaire général de l'ONU exhorte le russe à faire taire les armes ce matin. Mais celui qui avait tout anticipé depuis le début avec son administration, c'est Joe Biden, le président américain. Loïc Loury, bonjour.
Bonjour.
Joe Biden a téléphoné dans la nuit à Volodymyr Zelensky après avoir dénoncé une attaque injustifiée contre l'Ukraine.
Oui, effectivement, un communiqué très ferme de Joe Biden dans le ton qui a été employé ces derniers jours. Il évoque cette attaque injustifiée, donc non provoquée de la part de la Russie. Moscou, et Moscou seul, dit-il, sera responsable de la mort, de la destruction qui s'en suivront et le monde exigera des comptes. Alors cette attaque, Florence, c'est le scénario du pire annoncé par les Américains depuis des semaines. Il est 2h du matin à Washington, la nuit. La journée vont être longues pour Joe Biden. Il a pu échanger avec son homologue ukrainien. ukrainien. Il discutera aujourd'hui avec les dirigeants du G7 et ensuite, eh bien, il doit annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie. La Maison Blanche avait promis les mesures les plus dures jamais décrétées contre le Kremlin si Vladimir Poutine venait à envahir son voisin. Mais une chose est certaine, l'armée américaine, Joe Biden, a été très clair sur ce point, ne s'engagera pas militairement directement contre la Russie en Ukraine.
Voilà pour les mots de l'Occident. On peut ajouter la déclaration de l'ambassadeur de France à l'ONU qui dénonce le mépris de la Russie à l'égard du droit international. Mais une fois qu'on a dit ça, bonjour Franck Madvon.
Bonjour Florence.
Les Occidentaux condamnent ce matin après de premières sanctions cette semaine contre Moscou. Il y en aura d'autres, mais une fois qu'on a dit ça, eh ben sans doute pas beaucoup plus pour aider l'Ukraine, Franck. Hein.
Les Occidentaux le martèlent depuis le début de cette crise ukrainienne. Ils sont unis comme jamais. C'est vrai, les États-Unis et les Européens semblent sur la même ligne, fermes face à la Russie, au moins dans le ton, mais leurs moyens de pression restent limités. Il y a l'arme des sanctions, en effet, en partie utilisée cette semaine après la proclamation lundi par Poutine de l'indépendance des territoires séparatistes du Donbass. L'UE, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada ont annoncé des mesures visant des personnalités russes, des banques, des entreprises, mais ces sanctions restent modestes. D'autres devraient tomber dans la journée. Une réunion du G7 est prévue. Les dirigeants européens se retrouvent aussi ce soir à Bruxelles. Ils promettent de nouvelles sanctions massives, mais sont-elles efficaces? On peut en douter. En tout cas, elles n'ont pas dissuadé Vladimir Poutine de lancer une attaque. Quid d'une riposte militaire? À ce stade, c'est improbable. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, qui n'a pas vocation à intervenir. Vladimir Poutine fait aussi le calcul que les États-Unis et les pays européens n'enverront pas de soldats se faire tuer pour l'Ukraine. Joe Biden lui-même l'a reconnu. Les Occidentaux peuvent en revanche continuer à livrer à l'Ukraine des armes, des équipements, et ils vont s'employer à exercer les plus fortes pressions diplomatiques, économiques contre la Russie pour stopper la guerre.
Franck Madvon, merci. En France, maintenant, Emmanuel Macron, qui s'est beaucoup impliqué pour éviter la guerre, qui avait même conditionné sa déclaration de candidature à l'apaisement de la situation en Ukraine. Emmanuel Macron vient de réagir à l'instant, Simon Le Baron.
Mais la France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. Voilà ce qu'écrit Emmanuel Macron sur Twitter. La France, ajoute-t-il, se tient aux côtés des Ukrainiens et agite avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre. Tard hier soir au téléphone, il avait déjà dit à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ce soutien en matière économique, financière et en matière d'équipement défensif. Voilà la réaction donc. Très courte, très concise pour l'instant du président de la République, vu la gravité de la situation, évidemment. Les mots choisis doivent être pesés au trébuchet et surtout coordonnés. Le chef de l'État va donc multiplier toute la journée les rendez-vous diplomatiques, visioconférence avec les leaders du G7 cet après-midi, Conseil européen d'urgence ce soir à Bruxelles. Il devrait aussi participer à un sommet de l'OTAN et il va y ajouter de très nombreux coups de fil tout au long de ces prochaines heures et probablement un conseil de défense nationale ce matin à l'Élysée comme il l'avait déjà fait lundi après les déclarations belliqueuses de Vladimir Poutine.
La guerre en Ukraine, merci Simon Le Baron. En pleine campagne électorale, Jean-Luc Mélenchon, après avoir accusé l'OTAN d'être responsable des tensions, dénonce l'offensive russe comme Éric Zemmour ce matin. Dans le reste de l'actualité, Valérie Pécresse et les LR saisissent la justice contre Libération. Le quotidien publie ce matin une enquête sur le vote des adhérents du parti au mois de décembre qui ont désigné Valérie Pécresse comme candidate à la présidentielle. Un vote entaché d'irrégularités selon Libération. Adhérents fictifs, au moins trois étaient décédés, un chien aurait même été inscrit. Valérie Pécresse dénonce une manipulation de déstabilisation grotesque. Cette primaire a été exemplaire, voilà ce que dit la candidate. Et puis sur les parrainages, que certains candidats ont du mal à rassembler, il n'y aura pas de réunion des associations d'élus à Matignon. Aujourd'hui, elles ont décliné l'invitation de Jean Castex à 8 jours de la date butoir. Il est trop tard, dénonce l'Association des maires de France.
Merci d'écouter France Inter. Il est 8h15, la suite du journal. Florence Paracuelos.
Avec cette information, France Inter, maintenant sur les pratiques fiscales d'Orpea, le géant des maisons de retraite, mis en cause pour la façon dont les personnes âgées sont traitées dans ces EHPAD. Selon la CGT et la CFDT, Orpea pratiquerait largement l'optimisation fiscale grâce à des montages financiers complexes. Le but, échapper le plus possible à l'impôt. Thomas Giraudeau, les deux syndicats pour le prouver ont fait appel à des spécialistes.
Cela fait un an que le SICTAR, un groupe de chercheurs internationaux spécialisés dans les questions fiscales, enquête sur Orpea. À l'appui notamment des documents financiers du groupe, ils ont découvert l'existence d'au moins 40 filiales d'Orpea basées au Luxembourg. Le groupe a commencé en 2015 à transférer la propriété d'une partie de ses maisons de retraite à ses filiales luxembourgeoises, filiales qui vendent ensuite ses EHPAD à des investisseurs immobiliers. Par ce mécanisme, ces intermédiaires créés au Luxembourg, Orpea pourrait ainsi bénéficier de la fiscalité avantageuse du Grand-Duché, ne pas être imposé sur les plus-values réalisées lors de la vente des EHPAD. Les auteurs de l'enquête n'ont pas pu évaluer l'ampleur des montants potentiellement économisés par Orpea, et pour cause, tous ces montages sont faits dans la plus grande opacité. La quasi-totalité des filiales luxembourgeoises ne sont pas déclarées dans les comptes du groupe. Les syndicats CFDT et CGT, commanditaires de cette enquête, doivent la transmettre à l'Inspection Générale des Finances, déjà saisie du dossier Orpea depuis le début du mois.
Thomas Giraudeau, Hong Kong submergé par les cas de Covid, plusieurs milliers de contaminations chaque jour, les hôpitaux sont débordés, le gouvernement va faire venir des médecins et des infirmières de Chine pour essayer de faire tenir son système de santé. Et puis en Guadeloupe, la mise en place du pass vaccinal est repoussée au 28 mars, à minima, annonce le préfet. Les contaminations sont en baisse, mais cette décision est surtout dictée par le retard de l'arrivée du nouveau vaccin américain Novavax, sans ARN messager. Il devait être livré en priorité au territoire ultramarin rétif à la vaccination. J'ajoute pour finir ce petit rappel que vous adresse Eva Bétan.
Ah oui.
Si vous voulez faire partie du jury du Livre en Terre, vous avez jusqu'à dimanche pour nous écrire, nous dire comment vous aimez lire. Deux moyens, via notre site franceinter.fr, il y a un lien, ou par voie postale classique avec votre plus belle plume, Livre en Terre, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris CEDEX 16.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Marie-Pierre, l'accalmie a été de courte durée.
Et oui Nicolas, car une nouvelle perturbation est arrivée en deux parties. Une qui a déjà gagné avec de faibles pluies, le Poitou-Charente à l'Alsace. Alors qu'un deuxième front pluvieux et venteux suit derrière, arrosant déjà la Bretagne, les Hauts-de-France, avec du vent soufflant jusqu'à 80 km/h sur le Cotentin. Alors que des éclaircies sont nombreuses des pays de la Loire aux Ardennes et au sud de la Loire. Le ciel est voilé avec des brumes qui sont quand même formées autour de la Garonne et des entrées maritimes qui encombrent le ciel du golfe du Lion sous un mercure bien contrasté. Il fait moins 2 à Besançon ou à Corté en Corse, mais 12 à Hyères et Saint-Jean-de-Luz, 8 à Paris.
Et cet après-midi, la perturbation va se décaler un peu plus au sud.
Oui, il va pleuvoir. Charente jusqu'au centre Val-de-Loire, à l'Île-de-France, à la Lorraine, et de la Franche-Comté à la Bourgogne avec des flocons des 800 mètres sur les Vosges et du vent sur le Grand Est, alors que les éclaircies seront de retour de la Bretagne Nord avec un vent qui va se renforcer jusqu'à 100 km/h sur le littoral de la Somme, à la Côte d'Opale et au sud de la Loire. Peu d'évolution avec toujours ces entrées maritimes qui vont également gagner le Pays Basque et une partie des Pyrénées. Au mercure, vous aurez 9 à Langres ainsi qu'à Honfleur, 10 à Lille, 11 à Rennes, 12 à Paris. Il fera 13 à Strasbourg, 15 à Lyon et Bordeaux, 16 à Avignon, 17 à Ajaccio et 18 à Perpignan.
Merci Marie-Pierre et merci à vous d'écouter Inter, 8h19.